Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 21 octobre avec vous. Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque mardi, le journal de la semaine politique. D'abord les titres du journal de ce mardi. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rencontré le président des États-Unis Donald Trump à Washington et les deux hommes ont signé un accord sur les terres rares et les minéraux critiques. L'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza a repris un jour après la reprise par Israël d'un cessez-le-feu fragile. Les Palestiniens s'inquiètent de la quantité d'aide qu'Israël laisse entrer à Gaza, un élément clé de l'accord. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que le président ukrainien participerait ce vendredi à Londres à une réunion avec ses alliés, connue sous le nom de Coalition des volontaires. Et on passe au journal de ce mardi. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rencontré le président des États-Unis Donald Trump à Washington DC et les deux hommes ont signé un accord sur les terres rares et les minéraux critiques. Anthony Albanese a déclaré que les deux pays allaient contribuer à hauteur $1 milliard, $1 milliard américains au cours des 6 prochains mois à des projets liés aux terres rares. Donald Trump a indiqué que l'accord était en négociation depuis 4 à 5 mois.
In about a year from now, we'll have so much critical mineral and rare earths that you won't know what to do with them. They'll be worth about $2. But in the meantime, we're working with Australia and other countries. They're working with us too, but other countries also on that. But we're really working on anything having to do with military protection, military ships, vehicles, guns, ammunition, everything.
Le Premier ministre australien a déclaré que le président des États-Unis et lui-même allaient accomplir davantage grâce à leur accord historique sur les minéraux critiques.
There's three groups of projects, ones that are joint activities between Australia and the United States, such as Alcoa. Secondly is projects that will be US investment that the US will undertake in Australia, including processing. And then ones that Australia will undertake, some as well. One of them is Australia, the US and Japan as well.
Le gouvernement fédéral a critiqué la Chine pour sa conduite militaire dangereuse, accusant un avion de combat chinois d'avoir largué des fusées éclairantes près d'un avion de surveillance australien au-dessus de la mer de Chine méridionale. Le ministère australien de la Défense a indiqué que le Poseidon, un avion de combat australien, effectuait une patrouille de surveillance au-dessus de la mer de Chine méridionale dimanche lorsqu'il a été approché par un avion de chasse chinois qui a largué des fusées éclairantes à proximité immédiate de l'avion australien. Le ministre de la Défense, Richard Miles, a indiqué avoir évoqué cette rencontre avec les diplomates chinois à Pékin et à Canberra.
We've deemed this to be both unsafe and unprofessional. We have raised this issue with the Chinese embassy here in Canberra and we have also made representations via our embassy in Beijing. And we will also continue to undertake activities which assert the rules-based order because freedom of navigation in the air and on the sea is fundamental to Australia's national interests. The majority of Australia's trade goes through the South China Sea.
Le service de cloud d'Amazon, Amazon Web Services, est victime d'une panne mondiale qui a paralysé les services de nombreuses entreprises à travers le monde. Ed Amoroso, expert en cybersécurité de l'Université de New York, affirme qu'il faudra peut-être du temps avant que la cause profonde soit identifiée.
It's sort of like an airplane pilot when there's a little bit of problem. The first thing you do is fly the plane. So the first thing they need to do is get their arms around their systems and get them operational. Then at that point, you sort of, the pilot would say navigate, you make sure that you've got a good plan. And that's when you start to communicate out what the issues were, what the problems are. My guess is they're somewhere between getting their arms around this and then starting their plan for the fixes and for avoidance.
L'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza a repris un jour après la reprise par Israël d'un cessez-le-feu fragile. Les Palestiniens s'inquiètent de la quantité d'aide qu'Israël laisse entrer à Gaza, un élément clé de l'accord. Des Palestiniens, dont des femmes et des enfants, faisaient la queue devant un centre de distribution à Khan Younis pour recevoir des colis de nourriture et de fournitures. Écoutez Raafat Al-Kara qui faisait la queue.
It's not enough for anything. It's only enough for 4 or 5 days for a family of 6 people. If the aid package was bigger than this, or even delivered weekly, it would be better. You can see how expensive prices are becoming, and we cannot afford to buy anything.
Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés hier en Israël pour suivre l'application de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Précision de Michel Paul pour Radio France Internationale.
On peut dire que la diplomatie américaine intensifie ses efforts au cœur de ses discussions avec les deux émissaires, à figurer bien sûr surtout la précarité du cessez-le-feu et l'aide humanitaire à Gaza, mais il a été question aussi de la transition vers la seconde phase du plan américain, et c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité, même au sein du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Amit Halevi, un député de cette formation, a vivement critiqué Steve Witkoff et Jared Kushner, en affirmant que le plan américain poussait Israël vers les portes de l'enfer. Et devant le Parlement, Netanyahou est revenu sur les frappes massives menées dimanche en riposte à la mort de 2 soldats israéliens. Il a affirmé qu'Israël avait largué 153 tonnes de bombes sur la bande de Gaza. Alors ces discussions précèdent l'arrivée du vice-président américain J.D. Vance. Netanyahou en a précisé l'ordre du jour, les défis de sécurité auxquels Israël fait face et les perspectives diplomatiques. Le numéro 2 américain a pour sa part prévenu qu'il y aurait des hauts et des bas.
Le président français Emmanuel Macron a annoncé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky participerait ce vendredi à Londres à une réunion avec ses alliés, la coalition des volontaires. Emmanuel Macron affirme que l'Ukraine continue de résister avec beaucoup de courage. La coalition formée par la France et le Royaume-Uni en février dernier mène des négociations depuis des mois pour discuter de son soutien militaire à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie et des moyens de dissuader Moscou d'attaquer l'Ukraine une fois la trêve définitive en vigueur. Volodymyr Zelensky a également salué sa rencontre la semaine dernière avec le président américain Donald Trump. Il a qualifié cette rencontre de succès qui a permis des progrès dans l'acquisition de nouveaux systèmes de défense aérienne. Le nouveau traité de défense entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée franchit une nouvelle étape vers sa mise en œuvre. 2 semaines après sa signature, le traité BUCBUC, première alliance de l'Australie depuis plus de 70 ans, permettra aux résidents permanents éligibles, résidents en Australie et possédant également la nationalité ou en néo-guinéenne, de postuler pour rejoindre les forces armées australiennes à partir du 1er janvier prochain 2026. La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que le 31e forum ministériel Papouasie-Nouvelle-Guinée-Australie à Canberra cette semaine était une occasion excellente de peaufiner les détails du reste de l'accord. Le député du Parti national, Barnaby Joyce, semble avoir rejeté les appels à son maintien au sein du Parti fédéral et n'a pas exclu de rejoindre le parti One Nation. Barnaby Joyce a annoncé le week-end dernier son intention de quitter les Nationals lors des prochaines élections, ce qui a incité le chef du Parti national, David Littleproud, à l'appeler publiquement à rester au sein du parti. La chef du Parti libéral, Susan Lee, a prononcé son deuxième grand discours économique promettant des baisses d'impôts sur le revenu, une relance de la productivité et une réforme des relations professionnelles. Sa tentative de recentrer le débat sur la gestion économique lors de son discours au Centre d'études indépendantes fait suite aux luttes intestines de la coalition après sa défaite électorale, craignant aussi des défections au sein du parti One Nation. Madame Lee affirme que les premiers travaux sur les plans de baisse d'impôts ont commencé mais n'a fourni aucun détail, si ce n'est que la priorité sera donnée aux baisses d'impôts pour les revenus faibles et moyens. La chef de l'opposition a soutenu que ces changements étaient nécessaires car le gouvernement actuel vit au-dessus de ses moyens et que cela est injuste envers les Australiens.
Now, this is not a passing policy preference. It's more than just a commitment to lower taxes. I have never been more convinced, more determined, and more passionate about anything I have ever done in public life than I am today about making this pledge to the Australian people. Every instinct in my being tells me that Australians should keep more of what they earn.
L'organisme de financement politique Climate 200 a versé plus de 10 millions de dollars de dons aux candidats lors de la campagne électorale fédérale de cette année. Les données de la Commission électorale australienne indiquent que ce montant est supérieur de 5 millions de dollars à celui de l'élection précédente. Le seuil de déclaration pour les élections fédérales de 2025 était de 16 900 dollars. Monique Ryan a reçu le montant le plus élevé de dons, soit 1,9 million de dollars, suivi de Allegra Spender, 1,7 million de dollars, Sophie Scamps, 1,7 million de dollars et Kate Cheney, 1,5 million de dollars. Zali Steggall, candidate indépendante de Warringah, a reçu 789 736 dollars de dons déclarés. Enfin, en France, Nicolas Sarkozy, l'ancien président, ira à la prison parisienne de la santé ce mardi, près d'un mois après sa condamnation à 5 ans de prison dans le procès libyen. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a déclaré hier qu'il irait voir l'ex-chef de l'État. Les syndicats des magistrats dénoncent, je cite, une confusion des rôles. Explication de Charlotte Urien-Tomaca pour Radio France Internationale.
Nicolas Sarkozy n'a pas encore passé sa première nuit en prison, mais il bénéficie déjà de nombreux soutiens connus et moins connus. Familles, proches, politiques et militants sont mobilisés en vue de marquer sa défense. Les fils de l'ancien chef de l'État, Louis et Pierre Sarkozy, ont lancé ce week-end sur les réseaux sociaux un appel aux sympathisants de leur père afin de venir, je cite, exprimer leur soutien au matin de son incarcération ce mardi lors d'un rassemblement dans le 16e arrondissement de Paris à proximité du domicile de Nicolas Sarkozy. Ce matin, c'était au tour de l'actuel garde des Sceaux, Gérald Darmanin, d'exprimer son soutien.
J'irai le voir d'ailleurs en prison, comme garde des Sceaux. Je m'inquiéterai de ses conditions de sécurité. Le ministre de la Justice peut aller voir n'importe quelle prison et n'importe quel détenu quand il le souhaite. C'est parce qu'il doit garantir le bon fonctionnement du service public.
Le ministre de la Justice et ami de l'ancien chef de l'État avait déjà rencontré Nicolas Sarkozy quelques jours après sa condamnation. Et dans une lettre ouverte ce lundi sur le site du Figaro, 4 proches de Nicolas Sarkozy, parmi lesquels François Baroin, Christian Jacob et Renaud Muselier, adressent à l'ancien président de la République leur soutien. Les avocats de Nicolas Sarkozy déposeront une demande de remise en liberté dès son incarcération ce mardi.
Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 21 degrés. Adélaïde, 26. Melbourne, 20. Hobart, 17. Canberra, 30. Sydney, 23. Brisbane, 30. Darwin, 36. Et à Alice Springs, maximal de 41 degrés. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. 13h et bientôt 15 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et on passe maintenant au journal des sports et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet.
Journal des sports, on débute avec du football et le Maroc qui est champion du monde des moins de 20 ans. Vous l'avez sûrement vécu à l'antenne de SBS si vous êtes un fan de football. Le Maroc qui avait déjà fait très très belle impression à la Coupe du Monde chez les grands au Qatar, c'était en 2022. Eh bien, les jeunes donc des moins de 20 ans réitèrent vraiment la domination du football marocain sur l'Afrique et devient donc champion du monde en battant l'Argentine 2-0. Et l'entraîneur Mohamed Waibi est plutôt fier, on l'écoute.
Et on a rendu heureux 40 millions de Marocains, vous n'êtes pas le seul. Donc, alhamdoulilah, c'est une grosse performance. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas de la chance. On a battu les meilleures nations avec la manière. Aujourd'hui, on est une équipe qui était prête à gagner la Coupe du Monde. Et pour qu'elle soit prête à gagner la Coupe du Monde, ça ne se travaille pas en 3 ans. Je l'ai dit, je le répète, on a un roi, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui, ça fait des années déjà, qui a investi énormément dans le football. On a fait des centres fédéraux, un centre national incroyable. On a l'Académie Mohamed VI, qui a sorti des très beaux joueurs qui nous ont déjà fait rêver à la Coupe du Monde 2022. Et c'est le fruit de tout ce travail-là, tout ce travail depuis de nombreuses années. Donc, bien entendu qu'on est fier, je suis fier en tant que coach aussi d'être champion du monde, mais je sais aussi que derrière tout ça, c'est un travail de longue date. Et alhamdoulilah, ça porte ses fruits aujourd'hui.
L'entraîneur marocain Mohamed Waibi, donc champion du monde des moins de 20 ans. On continue sur le football et la Ligue 1 en France et les matchs de la 8e journée ce week-end. Nice a battu Lyon sur le score de 3-2. Marseille atomise le Havre sur le score de 6-2. Monaco et Angers font match nul 1-1. Lens bat le Paris FC sur le score de 2-1. Match nul entre Rennes et Auxerre sur le score de 2-2. Match nul également entre Lorient et Brest, le derby breton, sur le score de 3-3. Toulouse bat Metz au score de 4-0 et Lille est allé battre les Nantais et les Canaries chez eux à Nantes, donc sur le score de 2-0. Et le Paris Saint-Germain qui lui fait match nul 3-3 face à Strasbourg. D'ailleurs, pour le Paris Saint-Germain, on va écouter Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui défend son choix de gardien. On l'écoute.
Très content de Lucas Chevalier. Pour moi, c'est l'un des meilleures options ou la meilleure option. Et je suis très content de son performance et quand nous recrutons un joueur, nous pensons à longue période de temps et il a de la personnalité, il a montré, il la montre toujours dans les entraînements et dans les matchs. Ce que j'aime, je pense que vous rappelez de combien d'années vous critiquez Gigi Donnarumma. Je me rappelle parfaitement. Les 4 dernières années, vous savez, tu es déportivement Gigi Donnarumma, s'il vous plaît. Que je n'étais pas l'entraîneur de Paris Saint-Germain et j'ai ressenti tout le temps critiqué à Gigi Donnarumma. Quand tu es gardien d'un club comme Paris Saint-Germain, tu dois apprendre à vivre sur ça. Et ce que je peux dire de Lucas Chevalier, c'est que j'aime son personnalité, son niveau comme joueur. On est très confiant qu'il va être très important pour l'équipe pendant beaucoup d'années. Et c'est ça la confiance que nous avons en notre joueur. Et spécialement, moi, quand j'ai vu la performance de Lucas Chevalier pendant 7 matchs, je vais voir. Et pour moi, c'est suffisant.
Luis Enrique est donc l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Au classement, eh bien c'est Marseille qui prend la tête du championnat avec 18 points devant le Paris Saint-Germain. Deuxième avec 17 points. Strasbourg est troisième avec 16 points. Et Lens, quatrième avec 16 points également. Lyon est cinquième avec 15 points en bas de classement. Le Havre est 16e avec 6 points. Angers est 17e avec 6 points également. Et Metz ferme la marche lanterne rouge de ce championnat avec 2 petits points seulement. Allez, on parle de ping-pong. Et oui, de tennis de table. Les Français, les frères Lebrun, sont champions d'Europe. Et c'est très beau à voir, Baptiste Leduc.
Cette finale ne fut pas le match le plus difficile à gagner de ces championnats d'Europe par équipe. Mais après 27 ans à l'attendre, rien ne pouvait amoindrir la saveur de ce titre.
Ils l'ont fait !
Contre la Roumanie, l'équipe de France a assumé son statut de favori. Les frères Lebrun, Alexis et Félix, véritables fers de lance du tennis de table tricolore, ont parfaitement lancé les Bleus en remportant leur match sans laisser le moindre set. Et comme un symbole, c'est Simon Gauzy qui a terminé le travail le plus expérimenté de cette équipe de France et aussi celui qui a longtemps patienté et puis a accompagné l'explosion de cette génération dorée qui compte aussi Thibaut Poret et Flavien Coton qui n'ont même pas eu à sortir leur raquette en finale. Une victoire nette, expéditive dans le thème de ces championnats d'Europe par équipe. Seule l'Allemagne, en demi-finale, est parvenue à titiller les Français. En 6 confrontations dans la compétition, et donc en 20 matchs, les pongistes français n'en ont perdu que 2. 27 ans après celle de Jean-Philippe Gatien, la génération Lebrun-Gauzy est au sommet du tennis de table européen.
Voilà donc pour le tennis de table. Un mot de Formule 1 et Max Verstappen qui remporte le Grand Prix du Texas, Grand Prix d'Austin. On écoute le Néerlandais.
In the race, what was key was just that first stint. Charles was of course battling with Lando and that's where I could pull the gap. Because I think as soon as Lando was in clean air, it was very evenly matched or he was slightly faster. And we basically managed the gap till the end, but it was not super easy. Time management was tough today. Also with the wind, every lap, you could expect something different. So in that race, to be consistent was quite tough, but we managed to pull it off.
Max Verstappen. Donc, allez, un mot de cyclisme pour conclure ce journal des sports. Et on le sait, l'équipe Arkea BNB Hotel a dû fermer ses portes. C'était il y a quelques jours, c'était en fin de semaine dernière. La fin donc d'une belle époque donc du cyclisme français avec le team Arkea BNB. On écoute la réaction de Marc Madiot, c'est le directeur et le président de l'équipe FDJ, donc équipe rivale, mais équipe française également, qui nous donne son avis sur l'état du cyclisme français.
Triste pour toute l'équipe, pour l'encadrement, pour Manu, pour les coureurs. Ça crée de grandes difficultés pour évoluer dans l'avenir. On sait qu'on vit une période délicate au niveau économique en France. On sait que le cyclisme est en pleine mutation. Et il est difficile de vivre et survivre pour un certain nombre d'équipes. Et on le voit en France, mais on le voit aussi en Belgique notamment. On s'aperçoit que les pays de grande tradition cycliste sont en difficulté pour suivre le mouvement économique qui se développe à l'international. Donc j'espère que l'UCI va permettre de mettre des garde-fous qui permettent à tout le monde de vivre et d'exister dans un avenir proche.
Marc Madiot donc sur l'état du cyclisme français. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Et bientôt 24 minutes sur les ondes de Radio SBS. Et comme chaque mardi, c'est maintenant l'heure du journal de la semaine politique. Et vous êtes en compagnie de Patricia Meunier et de Christophe Mallet.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
On est mardi et donc le mardi on parle de politique à l'antenne de Radio SBS et aujourd'hui on va parler de la migration qui fait face à de nombreux défis en Australie. Le gouvernement envisage la reconnaissance à l'étranger des compétences des migrants pour leur permettre de trouver du travail plus rapidement et éviter ainsi de sous-employer leurs compétences professionnelles. Les explications pour un sujet bien compliqué avec Patricia Meunier.
Travailler en Australie lorsqu'on est un migrant peut être un long processus. Entre validation des compétences, manque de
reconnaissance des diplômes étrangers et une nécessité de reprendre des études australiennes pour pouvoir trouver un emploi, le chemin est pavé d'embûches pour les nouveaux arrivants. Le gouvernement envisage de se pencher sur une reconnaissance des compétences acquises à l'étranger afin que les migrants puissent rapidement trouver du travail dans leur domaine d'expertise. Bien souvent, ils doivent exercer d'autres métiers que le leur et ainsi sacrifier leurs compétences professionnelles. Les chiffres sont parlants. Au moins 620 000 migrants permanents travaillent en dessous de leur niveau de qualification en Australie. C'est une perte pour la société. Il s'agit donc de trouver une solution, peut-être en modifiant le programme de migration des travailleurs qualifiés. Le ministre de l'Intérieur, Tony Burke, s'est exprimé sur ce sujet devant le Club national de la presse la semaine dernière.
Last year, 21,000 visas for healthcare workers, 4,300 visas for teachers, 15,524 for construction. We've tripled the number of visas that we're giving for construction.
Tony Burke affirme également qu'il est nécessaire de délivrer un nombre adéquat de visas pour répondre aux besoins des migrants qualifiés en Australie. En 2024, ce nombre de visas a notamment été augmenté dans le secteur de la construction et de la santé et aussi de l'éducation. Mais le sujet reste sensible dans un contexte de détérioration de la qualité de vie de nombreux ménages australiens. La reconnaissance des compétences acquises à l'étranger reste un challenge pour Tony Burke. On l'écoute.
We haven't landed on it. This has been a wicked problem that no government has been able to solve in the lifetime of any of us. But it's something that if we can unlock this, then everybody wins. Economy wins. And the immigrant who's been given a promise of what it will be to work in Australia wins as well.
L'association Activate Australia Skills a aussi évoqué les difficultés des migrants qualifiés. Selon elle, l'économie australienne pourrait croître de 9 milliards de dollars par an avec une meilleure valorisation des compétences des migrants. Pour sa part, Susan Lee, la chef de l'opposition, affirme que le problème numéro un de la migration reste son niveau trop élevé en ce moment.
There's still one issue around migration that Mr. Burke hasn't addressed, and that's what she says is the high migration rate.
Now, that is not the fault of any migrant or migrant community. I was a migrant to Australia, and I meet amazing migrants wherever I go, and I value the contribution that they make and the fact that they chose to come to Australia. We celebrate that every day. But let's not forget that this government allowed a million migrants in a two-year period, much, much higher than at any two-year period in our history.
Le sujet de la migration va encore donner lieu à de nombreux débats politiques. Parmi eux, celui qui se penchera sur la politique migratoire réalistique avec la vie en Australie, ses infrastructures, son marché du travail et bien sûr du logement.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche à 13h. Ou à tout moment, en ligne.
Sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français. Continue le programme, cette fois avec Ibrahim Malouf, le jazzman, qui est en Australie dans le cadre du Melbourne International Jazz Festival. Il est avec notre collègue Christophe Mallet.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Eh bien, aujourd'hui, dans le programme en français sur Radio SBS, on a le grand plaisir d'avoir Ibrahim Malouf, un des artistes français que, personnellement, j'adore. Ibrahim Malouf, bonjour et merci de prendre du temps un peu. Vous êtes en direction vers l'Australie, je crois.
Alors oui, alors pour dire les choses précisément, je vais d'abord en Corée du Sud, ensuite j'irai au Japon, ensuite il y a deux trois petits voyages comme ça en Asie et ensuite je vais en Australie.
D'accord. Alors c'est une grande tournée avec une date en Australie, je crois. Déjà pour commencer, l'Australie, vous connaissez ? Vous êtes déjà venu ? C'est quelque chose que vous connaissez ?
C'est la première fois que j'ai mis les pieds en Australie.
D'accord.
Et je vous avoue, je suis très excité parce que j'ai pas mal d'amis qui ont visité l'Australie. Beaucoup m'en ont dit énormément de bien et ça a toujours été une sorte de frustration d'être toujours pas allé visiter l'Australie. Et là, j'y vais, je fais d'une pierre deux coups, j'y vais et je vais pouvoir passer deux jours là-bas Et donc me balader un peu, et en même temps, bah, j'ai l'occasion de faire un concert à Melbourne, donc je suis content, j'arrive à lier l'utile et l'agréable.
Voilà, tout à fait, ouais. Quand on connaît votre travail, il y a beaucoup de collaborations. On va parler un peu de ça d'ailleurs. Mais avant ça, justement, l'Australie pour vous, c'est aussi une terre qui a des sonorités spécifiques, il y a des instruments spécifiques. C'est vrai qu'on pense au didgeridoo, mais il y a tellement d'autres choses. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Est-ce qu'il y aura peut-être des chances, peut-être d'expériencer ça, de voir un peu comment ça se passe à l'autre bout de la planète avec des instruments un petit peu différents?
Oui, alors c'est vrai que on connaît très mal et très peu finalement la culture australienne. En tout cas, en France, on sait pas énormément de choses. Et là, sur cette première visite, c'est évident pour moi que une des premières quêtes va être d'aller comprendre un peu culturellement comment la culture australienne se développe musicalement, culinairement, les danses qu'il pourrait y avoir, type genre danse traditionnelle, musique pop aujourd'hui, le jazz, est-ce qu'il y a un jazz australien, à quoi ça ressemble? Je suis assez curieux de effectivement d'aller visiter et de découvrir, et qui sait, peut-être après pour une prochaine visite, créer une collaboration ou faire quelque chose de sympa.
Ouais, non, absolument. Et puis bon, il y a des artistes qui l'ont déjà fait. Il y a Bellurette, il y avait Jamiroquai qui avait intégré du didgeridoo dans ses sonorités, donc ça peut être super sympa. Si on revient un petit peu à l'essence d'Ibrahim Malouf, donc vous êtes toujours bercé dans la musique, et on va parler de l'album là qui est sorti. Il y a une photo sur l'album, c'est votre grand-père qui est dans la chorale, je crois. Donc il y a cette lignée qu'on mène de liaison avec la musique.
Ouais, alors c'est pas une chorale, c'est la fanfare du village d'où je viens au Liban, et c'est une photo de 1924 qui a été publiée dans le journal de mon village au Liban en 1925, donc il y a exactement un siècle, et on y voit entre autres mon grand-père, et c'est la fanfare qui a donné envie à mon père de faire de la musique quand il était jeune, et c'est ce qui ensuite a provoqué ma passion pour la musique. Donc c'est comme une lignée de trompettistes et de musiciens de fanfare qui a démarré il y a au moins un siècle.
Ouais, tout à fait. Alors, c'était au Liban. On sent qu'il y a les racines aussi du Liban. Vous êtes franco-libanais. Aujourd'hui, ça se transmet comment dans votre musique, ces racines justement libanaises?
C'est partout, et en même temps, c'est pas que c'est nulle part, mais c'est dans l'ADN de tout ce que je propose musicalement depuis toujours. L'Orient, la culture arabe sont là, est très présent, mais aussi l'Occident, la culture occidentale, la musique classique, qui est un peu aussi ma musique maternelle. Donc on va dire que c'est là, c'est présent, c'est très important évidemment, mais ça fait pas tout. Ça fait une partie de l'ADN musical que tout le monde travaille.
On a parlé pas mal des collaborations, c'est quelque chose qui vous a défini aussi pas mal sur les dernières années. Ça fait plus de 20 ans que vous tournez, mais il y a eu beaucoup de collaborations. C'est essentiel pour vous justement de pouvoir échanger à la fois artistiquement, mais aussi humainement avec des artistes et des gens qui pas forcément du même monde que vous.
Ouais, c'est fondamental aussi parce que je trouve que, enfin, d'abord moi jeune, c'était vraiment ma passion de me sentir connecté au monde, et il y a rien de tel que de collaborer pour se sentir connecté au monde, collaborer avec des artistes très différents, qui viennent de mondes différents musicaux, de géographies différentes, de cultures différentes, de styles différents, etc. Et puis je pense qu'à notre époque, les gens se croient connectés ou se pensent connectés les uns aux autres parce que virtuellement on arrive à créer des ponts comme ça plus facilement. Mais en réalité, est-ce qu'on partage vraiment beaucoup de choses quand on est dans un lien virtuel? Je sais pas. Alors moi, j'aime réussir à créer au moins artistiquement des choses en vrai. et c'est quelque chose qui me permet de me sentir lié au monde dans lequel je vis. Et je me sens vraiment connecté à notre époque.
Si on connaît un peu votre travail, moi, il y a un concert de mémoire. C'était à l'Accor Arena, mais je suis pas sûr. Mais vous aviez fait un concert où, au bout d'un moment, il y avait une certaine immersion avec des jeunes de différents conservatoires qui sont sortis de la scène ou de la foule et qui ont commencé à jouer avec vous. Incroyable, ce moment-là.
Alors, c'est vrai que là, ce soir-là, je crois que vous parlez de 2016. C'était mon premier. Moi, j'ai eu la chance de faire trois fois l'Accor Arena de Bercy. C'était le premier que je faisais en 2016, et c'était complètement fou parce que tout le monde me disait, mais Ibrahim, attention, t'es pas une pop star, t'es juste un trompettiste en fait, et de jazz. Donc c'est très niche ce que tu fais. Donc à Bercy, tu vas te planter, personne va venir, tu vas être dans une salle à moitié et encore remplie, etc. Et en fait, en réalité, ça s'est très très bien passé. On était sold out 8 mois avant le concert. Les gens ont trouvé que le concert était génial. Enfin voilà. Et une des raisons du succès de ce concert, c'est qu'effectivement, moi, depuis toujours, j'aime mélanger la pratique amateur. J'aime intégrer à mes concerts la participation de tout le monde. J'aime vraiment qu'un maximum de gens participent. Parce que quand j'étais petit, quand j'étais jeune et que j'apprenais à faire de la musique, mon père, très vite, m'a mis le pied à l'étrier en m'encourageant, en me faisant monter sur scène alors que j'avais 10 ans, 11 ans. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique et c'est ce qui m'a sauvé de beaucoup de choses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens plutôt en phase avec moi-même. Et cette place qu'a la musique dans ma vie, je trouve ça inestimable et j'ai envie qu'un maximum de gens comprennent et valorisent cette chose-là. Et donc, je refais ce que j'ai eu la chance d'avoir avec mon père, mais j'essaie de le faire avec tout le monde, avec tous les gens qui peuvent. Et donc, voilà, à chaque fois que je peux le faire en tournée, j'invite des musiciens sur scène. Alors, parfois, c'est des concerts un peu plus modestes où je fais monter quelques musiciens. Et puis, quand c'est des très, très gros concerts, je fais monter énormément de monde. Voilà.
Et à Melbourne, c'est possible ou là, justement, c'est peut-être un peu plus différent quand même?
On pourrait complètement le faire. En fait, je vais même vous dire, j'adorerais pouvoir le faire. Mais comme c'est mon premier concert en Australie, les gens ne me connaissent pas vraiment encore. Et je me dis, qui va venir, même si je vous invite, qui va venir monter sur scène, jouer avec moi, alors que c'est vrai qu'en Australie, les gens ne me connaissent pas. Et donc vraiment, là pour moi, c'est une vraie nouveauté. Hein. C'est le seul continent sur lequel j'ai jamais joué. C'est un des rares pays où j'ai pas joué ces 20 dernières années. Et donc, j'ai l'impression d'aller sur un terrain complètement vierge encore, où je vais devoir vraiment tout prouver au public australien en essayant de leur faire comprendre quel est le message de ma musique, comment je vois les choses, etc., voir s'ils adhèrent. Et j'espère vraiment, vraiment que dans les années qui viennent, je vais avoir l'occasion et l'opportunité de revenir. Et là, je pense que ça sera plus facile de créer des liens. Mais là, par exemple, à Tokyo, en Corée, partout où on va, en fait, on a à chaque fois des musiciens qui montent sur scène avec nous.
D'accord. Ben, nous, ce sera pour la prochaine fois en Australie. Vous êtes au sein du Melbourne Jazz Festival. C'était un gros festival pour nous, en tout cas en Australie. Est-ce qu'il est connu, ce festival? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Est-ce que pour vous, c'était important un jour, justement, de faire ce festival aussi?
Oui, j'en avais entendu parler depuis 2-3 ans, parce que aussi j'avais manifesté cette frustration en disant, mais j'ai les amis... J'ai toujours pas joué en Australie. Comment ça se fait? Ça fait 40 fois qu'on va aux États-Unis, qu'on va dans l'Europe de l'Est, en Europe du Nord, en Asie, on va partout. Et pourquoi l'Australie? Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien y aller. Et on m'a dit, justement, on m'a parlé de ce festival en me disant, bah, justement, il y a un chouette endroit où il faudrait vraiment que tu ailles. Moi, je leur disais, il y a Sydney, on n'a jamais joué à Sydney. On me dit, oui, mais attention, il y a un gros festival à Melbourne qui est vraiment chouette. Il faudrait plutôt que tu ailles là-bas. Ouais. Donc voilà, ça s'est fait comme ça.
D'accord, bah je peux le confirmer. C'est un très beau festival. Juste pour conclure un peu cette interview, j'ai vu une anecdote superbe. On parlait de la filiation et que vous aviez commencé petit, mais très petit, vous avez joué au mariage d'un pilote de F1 qui est aussi le fils de Jean-Paul Mémondo, si je ne me trompe pas.
Oui, absolument. Comment vous avez su ça?
Parce que je suis journaliste, j'ai fait mon travail. Mais c'est une belle anecdote quand même.
Bah, parce que ça fait partie des choses que j'ai pu faire jeune. Qui m'ont un peu fasciné, qui m'ont donné envie d'aller un peu plus loin, qui m'ont donné confiance en moi aussi. Et c'est pour ça que je suis autant dans l'encouragement des jeunes. C'est parce que je sais à quel point parfois des petites choses peuvent susciter des vocations. Et monter sur scène à côté d'un artiste, jouer avec lui, participer, voir le public, cette énergie qui est quand même quelque chose d'assez magique, ça donne envie, je pense. Et voilà, je me suis donné un peu cette mission-là d'essayer de motiver un maximum de monde à s'intéresser à la musique. La musique suscite l'empathie, elle nous apprend à nous comprendre les uns les autres malgré nos différences. C'est un vecteur de communication, de communion qui est absolument magnifique. Et quand on voit l'état du monde aujourd'hui, on se dit qu'on en ferait quand même bon usage.
Absolument. Alors, si vous êtes à Melbourne, si vous êtes pas loin de Melbourne, ça vaut vraiment le coup. C'était le 23 octobre, c'est à 170 Russell Street, en plein cœur de la ville. Vous allez voir, et nous on va kiffer, mais je pense que vous, Ibrahim, vous allez aussi vraiment apprécier Melbourne. Je sais pas, vous aurez le temps de découvrir également, et merci de nous avoir donné un petit peu de temps aujourd'hui en chemin justement vers l'Asie.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Puis voilà, encore une fois, plus le public est là, on va faire la fête, on va chanter, on va danser, voilà, et plus je serai ravi de pouvoir partager des moments avec le public australien.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
h 46 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et maintenant, on part à la rencontre de Clément Balou, auteur de bandes dessinées, qui est en Australie pour promouvoir son livre Vietnamese Memories Down Under.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Notre invité dans les studios de Radio SBS, Clément Balou, auteur de bandes dessinées, illustrateur et storyteller. Bonjour et bienvenue à nouveau en Australie.
Bonjour Jean et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis vraiment ravi d'être ici en Australie, à Melbourne et dans les studios de SBS pour le programme français.
Et là, vous êtes en Australie pour une deuxième visite et cette fois-ci, c'est pour promouvoir votre dernier ouvrage, Vietnamese Memories Down Under. Et vous allez aussi donner deux conférences, une à l'Université de Melbourne ce soir et l'autre à Monash University. Parlons peut-être de ces deux conférences que vous allez donner à ces universités.
Eh bien, tout d'abord, il y a une histoire avec ces universités, c'est-à-dire qu'il y a 6 ans, quand je suis venu pour la première fois en Australie, j'avais été invité par l'Université de Melbourne et également à ANU à Canberra. Et c'est ce voyage qui m'avait permis de faire des recherches sur la communauté vietnamienne en Australie. Et aujourd'hui, je suis de retour avec le livre, la bande dessinée, le roman graphique, on peut l'appeler aussi comme ça, qui est le résultat de ces recherches effectuées il y a 6 ans. Donc, il était normal que je retourne dans les universités pour présenter ce travail que finalement j'ai pu initier grâce à elle. Alors, à Melbourne Université, c'est donc ce soir à 18h. Il y aura une présentation de mon travail et notamment une petite introduction par Madame la Consulte Générale de France, Madame Ignacio. Et par la suite, je présenterai mon travail, donc j'expliquerai un petit peu quel est mon processus de travail. Et puis surtout, je ferai une présentation, une petite lecture d'un extrait du nouvel album Down Under, qui est la raison de ma venue aujourd'hui en Australie. Et pour l'université de Monash, il y aura également donc une présentation. Alors les deux seront en anglais. Je ferai de mon mieux, il faudra être indulgent. Et pour Monash, c'est organisé donc par une autre universitaire, Madame Charlotte Mackay. Et c'est aussi une présentation de ce travail, mais si vous venez aux deux présentations, déjà j'en serai ravi, mais je présenterai les choses un peu sous un angle différent, car mon travail est composite. Il y a plusieurs données à prendre en compte dans c'est une expérience aussi, hein, pour moi, hein, d'aller à la rencontre des gens dans un autre pays et puis ensuite de raconter cette histoire à travers les dessins et les textes. Donc je mets en jeu plusieurs choses. Parfois c'est les paysages, parfois c'est le thème de la nourriture, parfois ça va être les couleurs. Donc je vais essayer d'explorer lors de ces deux conférences différents aspects de mon travail. Donc j'espère que ces deux conférences seront intéressantes pour tout le monde, même si on vient aux deux ou si on ne vient qu'à une des conférences.
Parlons de Vietnamese Memories Down Under. Que pouvez-vous dire aux auditeurs qui nous écoutent, peut-être pour les encourager à aller lire cette œuvre?
Eh bien, ça ne vous a pas échappé si vous êtes habitant à Melbourne ou à Sydney ou d'autres grandes villes, ou que vous passez de temps en temps dans ces grandes villes australiennes. Il y a beaucoup de Vietnamiens. Et on pourrait partir d'une question très simple, mais que font-ils là? Pourquoi sont-ils là? Comment sont-ils arrivés là? Et derrière les anecdotes de chacun et de chacune se dresse en fait un portrait d'une diaspora qui a connu des épisodes extrêmement douloureux, qui sont reliés finalement, ça commence avec la colonie en Indochine, la colonie française en Indochine. Puis il y a une succession d'événements, différentes guerres, un changement de régime. qui font que les gens ont dû partir pour leur survie, pour leur bien-être, et se sont retrouvés à devoir choisir un pays d'exil. Enfin, quand je dis choisir, y avait-il vraiment le choix? Pas dans tous les cas, en tout cas. Et il se trouve que la communauté vietnamienne en Australie est une des plus grosses au monde. Alors il y a bien sûr les États-Unis où on est à 1,5 million personnes, la France, due encore une fois au passé colonial, mais l'Australie figure en bonne place. Donc dans ma BD, j'explore un petit peu les raisons. Alors c'est lié à des contextes économiques, à des grands mouvements de l'histoire, mais aussi parfois à la volonté d'une personne. Donc voilà, je vous laisse découvrir dans le livre. Parfois une personne fait la différence. Et donc voilà, j'essaye de dresser un portrait. Alors il est subjectif, ce portrait, des Vietnamiens que vous croisez dans les grandes villes australiennes, chez qui peut-être vous allez manger de temps en temps un bon pho dans un restaurant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est l'occasion de voir ce qu'il y a derrière. Et puis, pour ceux qui la connaissent un petit peu, c'est l'occasion d'avoir peut-être mon point de vue et puis des approches différentes, puisque c'est une série de portraits. C'est pas l'histoire d'une. Il n'y a pas un héros. Il y a plusieurs protagonistes dans l'album. Donc, on va aller parfois avec une personne âgée qui nous raconte des épisodes de sa jeunesse. Et puis après, on va être avec ce qu'on appelle les gens de la seconde génération, donc des gens de mon âge ou même plus jeunes, qui ont grandi en Australie et puis qui donnent leur point de vue. Donc il y a une collection comme ça de portraits. Donc même si on connaît la communauté vietnamienne, peut-être que ça pourra apporter un peu de richesse dans l'approche.
Et vous-même, vous avez des origines vietnamiennes. Votre papa, je crois, est vietnamien et votre maman française. Quel a été leur parcours? Est-ce qu'ils ont quitté le Vietnam après 1975? Quelle est leur histoire?
Alors, une maman du nord de la France et un papa du sud du Vietnam. Voilà. Donc, ça explique aussi mon intérêt dévorant pour cette histoire, cette culture. Et mon père est parti du Vietnam à la fin des années 60. Et pour ceux qui se rappellent un peu de l'histoire, c'est le moment de l'intensification de la guerre américaine. Alors certains l'appellent la guerre américaine, d'autres vont appeler ça la guerre civile. Mais enfin, toujours est-il que dans les années 60, il y a des opérations comme Rolling Thunder qui sont des bombardements massifs qu'on a vu dans les films hollywoodiens d'ailleurs, hein. Donc c'est une période très très dure et la guerre est propagée un petit peu partout sur le territoire. La famille de mon père n'est pas à l'abri. Et donc les frères et sœurs, donc mes oncles et tantes, mon père et oncles et tantes, à ce moment-là commencent à partir du Vietnam en ordre éparpillé. Ce qui fait que, comme beaucoup de familles vietnamiennes de la diaspora que j'ai pu rencontrer, ben on a des membres de la famille qui sont en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, voilà, à travers la France aussi. Et ce qui se passe, c'est que à cette époque-là, c'est que quand mon père part, il pense que c'est temporaire. C'est un temps pour venir en France se mettre à l'abri, et une fois que ça se calmera, il pourra revenir. Et c'est là où il y a quelque chose de l'ordre un peu de la dramaturgie, je dirais, quand j'ai décidé de le raconter en bande dessinée. C'est que en fait, ce temps, il s'est étendu, et puis finalement il a fait sa vie en France, il a rencontré ma mère, ils ont eu des enfants, ma sœur et moi, et donc il n'y a plus de retour possible. Donc il y a vraiment, l'exil est devenu définitif. Et après, je me suis demandé si dans les autres familles, quelles étaient les autres configurations. Donc j'ai commencé à essayer d'explorer tout ça en demandant à des gens de bien vouloir me raconter leur histoire. Alors certains ont accepté, certains n'ont pas accepté. Et puis parmi ceux qui ont accepté, il y a des histoires qui m'ont touché plus que d'autres et qui figurent dans les albums de bande dessinée. Donc il y a 5 tomes aujourd'hui quand même, hein. Donc il y en a 3 qui sont disponibles en anglais. Living Saigon et Little Saigon et donc Down Under. Et puis en France, il y a 5 volumes au total, voilà. Donc sous le nom de la série Mémoire de Viet Q. Viet Q étant un terme un petit peu polémique que j'ai choisi haïtien.
Alors qui est ce personnage que vous avez créé, Viet Q?
Alors, VietQ, tout simplement, c'est le Vietnamien de l'outre-mer, le Vietnamien en exil. Et en fait, c'est à la fois un peu injurieux, hein, je vous le cache pas, enfin dans la bouche de certains. Et puis, c'est aussi un étendard sous lequel d'autres vont se retrouver, vont dire bah oui, on est les VietQ, on est ceux de l'outre-mer, on est ceux qui ne vivent pas, qui ont la culture vietnamienne mais qui ne vivent pas au Vietnam. Donc l'idée, c'est que encore une fois, il y a plein de protagonistes différents, il y a plein de personnes qui deviennent des personnages de BD, qui vont parler à travers les voilà, quand on tourne les pages. Mais c'est d'avoir quand même une sorte de tous ces destins individuels, si vous voulez, se réunissent, ont des points communs. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même un portrait global commun. Encore une fois, subjectif, c'est une vision d'artiste, hein, je ne prétends pas être journaliste. Et donc, ça forme comme ça une espèce d'identité commune, contradictoire parfois. Voilà, mais c'est surtout, une série de portraits.
Voilà, donc la première partie de cette interview avec Clément Balou pour son livre « Vietnamese Memories Down Under ». Et je rappelle qu'il présente deux conférences à Melbourne ce mardi 21 octobre au All Arts Building de l'Université de Melbourne à partir de 18h. Et ensuite le jeudi 23 octobre à Monash University, 750 Collins Street, Docklands. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. On se quitte avec Orage, qui nous interprète Boomerang. Prochain rendez-vous jeudi à 13h sur les ondes SBS French. Bel après-midi. À très bientôt.
Je contre-attaque avec ma lyre et quand je sais plus vraiment quoi faire, je laisse ma dalle prendre le dessus. Les gars sont toujours hal, ma rime berce le métal. Parler de cash, c'est méta. Parler de soi, ça l'est moins. Chauffe le mic sans chalumeau. J'avais bien que j'allais un jour plus faire partie des autres. Que je remplirais les salles à la seule force de mes mots. Rare, mais quand je rappe, je remplace le mot sale par un couplet dans mes notes.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.